bonjour.
Bonjour.
Sandy Bachereau. Bonjour. Daniel Morin, notre invité particulier.
On est obligé de partir dans les aigus sur Patrick.
On est...
Bah, sur les graves, c'est pas facile.
On n'est pas obligé, mais sur les... Oui,
peut-être.
Ouais, c'est mieux. Patrick Mill qui incarne François Mitterrand dans Lettres à Anne. Je suis pas sûr de la liaison. On l'a fait ou pas?
Oui.
C'est sûr?
Oui.
Lettres
c'est pas beau, mais il faut le faire.
D'accord.
On peut faire plus légèrement.
Lettres à Anne.
Non, lettres à Anne.
Non, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une.
D'accord, ok.
Lettres à Anne, c'est bizarre.
Texte-toi, ma femme. La correspondance entre François Mitterrand et Anne Pinjot, tout ça mise en scène au théâtre du Rond-Point. Ça a commencé début décembre et c'est jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Et puis ça reprendra en tournée, notamment à Avranches-Nîmes. On en parle avec lui en quelques instants. Mais d'abord, quel blind test? Qui est prêt?
Oui.
Qui est chaud?
Oui.
Qui est bouillant? Qui se dit...
Ah, moi, je vais brûler le studio.
Qui se dit winner aujourd'hui?
Ça dépend du thème, quoi.
Oui, c'est ça.
Morgan.
Leïla.
Beethoven.
Non. Lettre à Élise.
C'est Morgan.
Ouais, c'est Beethoven.
C'est bien.
Donc les lettres.
Mais si, elle a raison. Non, je sais pas qui a dit non, mais si, elle a le point.
C'est toi qui as dit
alors,
non.
Alors du coup, c'est
ah
lettre,
non, moi, j'ai dit non.
Lettre
ah, non,
à Élise ou lettres à Élise?
Lettre.
Il y en a qu'une.
Il y en a qu'une.
Une seule, ouais.
Eh ben, ça n'empêche pas.
Lettre à Élise. Elle était quand même longue.
Pardon?
Ça, c'est Alexis Lourcignol qui dit lettre à Élise.
Comme dit.
Oh.
De la régie, là, je crois.
Régie. Photo Morgan.
Palmarès.
Ah, je crois que c'était tendu.
Moi aussi, mais tu sais, en régie, même pas trop.
Si avec en régie.
Tu sais que même les paranoïaques ont des ennemis.
Non, mais c'est parce que je dis pas bonjour, c'est normal.
Ah, bah oui. Ah.
Je dis pas bonjour aux gens, forcément.
Et je fais pipi dans leur sac.
Je viens d'avoir la régie, elle me confirme.
Voilà, j'ai pas de respect de la personne humaine. Et à un moment, ça me retombe dessus.
Oui. Qui chante?
On fait moins les malins.
Ouais. Leïla,
oui.
M.
Sur l'envers
de la table. Elle a même fait l'intro.
Ouais. Joli.
Tout en bas écrit en tout petit.
Celle-là, il fallait la voir.
Et ça s'appelle Lettre infinie.
C'est Lettre infinie qui me le crie.
C'est le principe.
Lettre infinie.
Également. Vous avez saisi le thème ou.
Ouais, infini dans les titres.
D'accord. Je vous manque de respect. Attention, très facile.
Ah oui, Daniel.
Leïla. Sardou?
Non, Dave.
Oui.
Ah bon? Et il ressemble du Sardou.
Bah, c'est la même personne, il paraît. Dave et Sardou,
bah,
c'est la même personne.
Ensemble.
Ouais,
non,
jamais.
Ensemble.
Bah, si, on les a vus, mais bon.
C'est les Daft Punk, tu
vois. Toi, t'as pensé au lac du Connemara.
Ouais, un truc comme ça.
Alors, c'est.
Hélène et Kerguelen.
La petite nappe de Saint-Pé.
C'est pas cette chanson.
Est-ce bien grave?
Ouais, peut-être un peu. Ça
est-ce pas grave?
Patrimoine, non?
Moi, patrimoine total.
Moi, j'ai une tendresse pour toi.
Moi aussi.
Et pour Michel Sardou?
J'attends Dave.
Bah,
attention!
Leïla?
Oui.
Ah non.
Tanguy?
Oui.
Bruce Springsteen?
Yes.
Putain, j'ai Letter to You? You? Et non, je sais que ça commence pas comme ça.
Letter to You?
Je sais que ça commençait plus sauvage. C'est vraiment l'intro, ça?
Bah, c'est un peu sauvage quand même.
C'est un Springsteen récent, il est moins sauvage.
Ouais,
ouais. C'est ça, il se calme.
Bah, normal.
Il se baraque au balise.
Ouais, c'est l'âge. Très bien le bouquin qu'ils ont fait ensemble.
C'est barat, t'as
vu?
Ouais. Une partie. Bon, je suis en train.
D'accord.
Très chouette, Alien.
Ouais, tu l'as vu
un
au
point
libre,
pour Leïla, Daniel, Tanguy. Deux pour Morgan.
Attention,
plus pointu. Je veux le nom du groupe.
Tanguy, les Buckstop.
Geoffroy.
Oh là là.
Bravo.
Ça, c'est beau.
Ça, c'est un truc.
Là, là, tu sais que t'es.
C'est Alex Shelton, ça.
T'es au top de l'amour.
Ah, bah, j'adore.
T'as un contrat à vie chez un
tel. T'as le droit de plus lui dire bonjour.
Tanguy,
c'est beau. C'est beau.
Attention, break.
C'est un truc pour le lait, non?
Pas du tout.
C'est pour le lait.
Ça a été tellement repris, il y a tellement de versions différentes.
Je crois que tu peux voir avec No Milk Today, non?
Ah ouais, Herman Hermes. T'as raison.
Tristesse.
Bah, c'est la fin de semaine.
Ah oui, pardon.
C'est Leïla, elle est au mois de juin.
Hier soir, c'était les fonds de bouteille.
Non, elle est mi-août. C'est quoi? C'est le Super Banco, là?
C'est le Super Banco.
Ah.
Il y a forcément lettre dans le titre.
Freddy Freda, c'est pas ça?
Non.
Frank Sinatra.
Tanguy Tanga.
Fada Freddy.
Chapeau.
Leïla, Love Letter, Metronomy.
Joli.
Bravo. Énorme.
Alors, est-ce que tu m'aimes, moi, ou pas?
Toujours. Depuis le début.
Mais
Tanguy,
toi, tu n'as pas besoin de
Tanguy,
ça.
Tanguy, c'est autre chose.
Non, voilà.
Elle a pas besoin que je lui dise.
Voilà. Moi, j'ai besoin de trouver des noms de titres pour être aimé.
Ta,
si tu toute la différence.
Victoire de Leïla. Merci. Accueillir Patrick Mille.
La bande originale avec Nagui.
Bonjour Patrick, bienvenue.
Bonjour.
À ce micro.
Bonjour.
Vous co-signez avec Benjamin Guillard l'adaptation des lettres Zahan. On se demandait si oui ou non il fallait faire la liaison. Vous la faites, vous ?
Moi, je la fais pas. Moi, quand je parle du spectacle, je dis lettres à Anne. C'est vrai que lettres Zahan, voilà. Non, je lettre à Anne. Non, mais faudrait faire, on peut faire la liaison. Tout
d'autant
à fait.
Qu'il y en a énormément. Et alors, j'ai découvert d'abord beaucoup de choses dans votre spectacle, mais surtout que ça commençait très tôt cette histoire. C'est-à-dire que les premières lettres datent des années 60.
Ça commence en 62. La première, c'est en 1962. Il a 47 ans. Elle en a
19.
18.
Ah.
Vous faites des liaisons bizarres.
Ouais, c'est ça. 18. J'étais au bord de la légalité. Là.
Mais il la connaissait d'avant, parce que vous savez, comment il l'a connue, c'est qu'il avait une maison à Osgore, une résidence secondaire avec Daniel, et les parents de Anne Pinjot aussi avaient une résidence secondaire dans la station d'Osgore, près du lac. Et il jouait au golf avec le papa de Anne Pinjot, François Mitterrand.
C'est moche.
Donc, la majorité vient prendre l'apéro à la maison, c'est toi qui as gagné, tout ça, et là, il y a une jeune fille.
C'est vrai, Tom, la majorité n'était pas 18 ans.
C'est 21, c'est
ça. Elle était 21 ans.
Eh ouais,
ouais. Donc non, déjà, c'est...
C'était illicite.
Un peu illicite.
Dans tous les sens du terme.
Et surtout pas très bien vu.
Marital et voilà, du point de vue légal. Une histoire, on se pose la question, et d'ailleurs la vanne est faite pendant le spectacle, de savoir si ces lettres s'adressent à Anne ou à lui-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est une psychanalyse ou c'est vraiment vrai. Déclaration d'amour hein, c'est ce que vous dites.
Oui, il dit, vous m'avez dit que dans mes lettres, vous avez l'impression souvent que je m'adresse à moi-même.
C'est ça.
Ouais. Ben oui, c'est vrai que s'il s'adresse, mais en fait finalement c'est fragments d'un discours amoureux, c'est-à-dire aimer l'autre, parler à l'autre, c'est aussi parler de soi. Et donc évidemment, il dit beaucoup de lui, énormément de lui. On découvre un Mitterrand incroyable. Au-delà de découvrir un Mitterrand passionné, amoureux, fou d'amour, mais vraiment en passion, en déchirure, en exaltation, on découvre un Mitterrand aussi mystique, très très profond et très poète.
Et qu'est-ce que vous dites de vous alors ? Parce qu'il a fallu faire une sélection dans cette correspondance. C'est une correspondance fleuve. Donc si dans les lettres, dans le discours amoureux, on raconte plus de soi que de l'autre, dans le choix du discours amoureux,
c'est une forme d'écriture.
C'est très juste, oui. Ouais. C'est dans le choix, oui. Ça raconte de moi aussi, oui, sûrement.
Et
en tout cas, de mon rapport.
Et alors ?
Et alors,
De mon rapport. Oui, j'aime la fidélité, j'aime le temps long et j'ai aimé ce temps long qu'il a pris. Au-delà du fait qu'il a pris pour accéder au pouvoir, parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas un président qui arrive, qui a 39 ans, qui se présente la première fois, que personne ne connaît.
Ça, on le voit dans le spectacle. On voit la difficulté...
On l'a vu hier soir.
La montée de sa carrière, de sa volonté, de son obstination, de ses déplacements en province, de ses déplacements politiques, mais il y a cette force-là, avec aussi, quand même, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas la vie est un long fleuve tranquille, on est dans des séparations, dans des déchirements, justement, même le mot est utilisé...
Une vie qu'on déchire, comme ça, exactement,
et il analyse même ce mot, il est dans un... Et le spectacle entier, d'ailleurs, c'est un regard sur notre vie politique française, où l'on voit partout toutes les étapes par lesquelles on est passé, y compris lui, son parcours, avec ses doutes, ces grandes phrases, et d'ailleurs on va reparler de la mise en scène de Benjamin Guillard parce que il y a des illustrations, des images d'archives qui viennent étayer, resituer aussi telle ou telle lettre, parce que ça reste, oui, des échanges amoureux, mais c'est cette liaison épistolaire, enfin qui n'est pas que épistolaire, puisqu'il donne quand même beaucoup de rendez-vous, y compris des rendez-vous, on ne sait pas ce qui se passe, c'est-à-dire je serai à la librairie, on verra bien si elle vient ou si elle vient pas. Il est très en demande. Et tout ça est resitué avec la naissance du Concorde, avec les élections perdues, les débats, le monopole du cœur. Enfin bon,
la naissance du Concorde, le monopole du cœur, la naissance de Mazarine, la naissance. Tout ça s'entremêle.
C'est une histoire de la France.
Voilà,
c'est une histoire intime.
C'est ça. C'est une histoire de la France à travers une histoire d'amour. Et c'est ça qui est beau, c'est que finalement la petite histoire est la grande histoire de sa vie. Ce qu'on pourrait appeler la petite histoire, c'était cette histoire parallèle. qui n'était pas l'officiel, est la grande histoire de sa vie. Et cette femme est sa muse, son inspiratrice. Il lui dit, vous m'aidez à servir l'idée que je me fais du monde et des hommes.
Non, il dit même d'ailleurs que ça, son espèce de vocation ou d'envie de réussir viendrait de la confiance qu'elle lui mettrait dans sa grandeur, entre guillemets.
En tout cas, l'aide à résister à toutes les pressions. Et il se rend compte qu'il refuse un destin ordinaire grâce à elle, par elle. Donc c'est très beau.
Mais elle l'a quitté souvent que ça ?
Elle l'a quitté beaucoup, beaucoup, elle le dit d'ailleurs. Elle le dit dans l'interview qu'elle donnait à Jean-Noël Jeanneney, le seul entretien qu'elle a donné sur France Culture au moment de la sortie des lettres. Elle a dit, je l'ai quitté beaucoup, beaucoup. Mais c'était la condition. Elle était très libre et extrêmement moderne, au même temps d'une famille vraiment tradie, on va dire. Elle-même assez tradie. Très catholique, fervente, mais en même temps avec un choix de vie pour une jeune femme des années 60, incroyable.
Quel genre d'autorisation faut-il pour pouvoir interpréter et adapter, entre guillemets, ces lettres sur scène ?
Écoutez, j'ai d'abord demandé à Mazarine, par une amie commune, de me présenter Mazarine. Et Mazarine m'a dit, moi je suis ok, mais c'est ma mère. Donc il a fallu que je fasse ma lettre à Anne.
Mais non.
Oui, parce que c'est l'ancienne, quelqu'un de très discret, Anne Pinjot, qui continue à rester dans une sorte de grande discrétion. Et donc j'ai écrit cette lettre qui m'a pris beaucoup de temps. Je pensais bien à y penser. Donc je me suis appliqué.
Puisque vous êtes tellement en tête les lettres de François Mitterrand, avez-vous paraphrasé, avez-vous gardé une structure et vous êtes dit, tiens, je vais être dans un schéma qui va trouver un écho en elle ?
Oui, je pense. Parce que je les avais lues complètement avant de lui écrire. Pour
faut dire que c'est un énorme succès aussi littéraire.
Oui, littéraire. Le livre, c'est beaucoup. Beaucoup de gens l'ont, en tout cas, chez eux. C'est ce gros volume de Gallimard.
Peu
de gens
l'ont lu
en entier. Non, les gens picorent. Les gens vont le lire de temps en temps, comme ça. Mais le lire en entier, non. Je connais peu de personnes qui les lisent complètement en entier.
Moi, je l'ai pas lu en entier.
D'accord.
Mais moi,
Anne Pinjot l'a lu en entier ou pas ?
Je l'ai vu en librairie. Moi, je l'ai pas, je l'ai lu. C'est le mec mytho. Ça va se voir, là, ou pas ?
Non, là, c'était pas mal.
En tout cas, c'est toi qui le dis, on le croit.
Ah donc vous êtes vous faites plusieurs brouillons d'une lettre pour la convaincre.
J'ai même osé, je crois aussi aux forces de l'esprit. Bon, tout
ah ouais, d'accord. On a fait les gros moyens.
Parti dans le mysticisme.
Je suis parti dans mon mysticisme à moi, qui est aussi un mysticisme où je me pose des questions, je m'interroge, comme lui beaucoup.
Et qu'est-ce qui, à votre avis, l'a rassuré dans l'adaptation au théâtre de ces lettres ?
Pas le chèque.
Je crois pas, mais parce que c'est du théâtre, vous savez. Non, mais je sais pas ce qu'il. Peut-être que c'est. Vous savez, c'est toujours une conjonction de choses. Quand quelqu'un dit oui pour une adaptation, c'est peut-être le bon moment. Au-delà de la formulation et de la demande, je pense que c'était le bon moment. Comme elle a attendu quand même extrêmement longtemps avant de les livrer, ces lettres, qu'elle a gardées pendant des années. Et il a fallu attendre, et elle a eu l'élégance d'attendre déjà une chose, c'est la mort de Daniel Mitterrand. Et puis ensuite, un peu poussé par la Fondation Mitterrand.
Elle était au courant quand même, je crois.
Oui, elle était au courant, bien sûr.
Daniel Mitterrand était au courant. Sans les avoir lus, tu crois ?
Elle ne les avait pas lus, elle ?
Bah non,
c'était Anne Pinjot qui avait cette relation.
Oui, bien sûr, mais la double vie, elle était connue de tous.
Elle était connue.
La correspondance, non.
Par correction, quoi.
Oui, bah, je trouve que c'est élégant d'attendre, en tout cas, qu'une sortie littéraire de ses lettres. Et puis, c'était une façon pour elle de sortir, de révéler cette histoire. Et je pense que elle a attendu donc le 20e anniversaire, de la mort de François Mitterrand pour que ça soit édité chez Gallimard.
Lettres à Anne, c'est au théâtre du Rond-Point avec Patrick Mille, seul en scène, mais avec tellement d'images, de projections, de vidéos, d'écriture même, parce que tout ça, il faut aussi temporaliser, se resituer dans l'époque. La mise en scène est celle de Benjamin Guillard,
qui a fait une mise en scène magnifique,
qui a fait une co-adaptation.
Bah, on s'est partagé le travail parce qu'il y avait quand même 1218 lettres, donc il a fallu se partager ce livre et après on a regardé ce qu'on avait choisi, on a fait une sorte de montage, on a monté aussi dans les lettres pour raconter une histoire. Ce qui est important, ce qu'on voulait aussi, c'était raconter cette histoire de France que des générations plus jeunes. Moi, j'ai pas mal de lycées qui viennent et voilà, ils ont entendu parler de Mitterrand, mais dans les livres d'histoire. Et ils découvrent un homme qui a fait beaucoup de choses, qui a une présidence, c'est le plus long, 14 ans, hein, ça a été la plus grande présidence
et de la 5e. Et c'est impossible d'ailleurs que ce record soit égalé, étant donné que maintenant on est passé à un quinquennat.
Voilà.
Et qu'au au maximum, c'est 10 ans.
J'en ferai 3, mais...
Ouf.
Déjà, faut arriver en parlant. Je sais même pas si c'est le maximum.
Je nous le souhaite pas.
Je crois toujours
ça. On peut changer la constitution. Voilà. Hein.
Vous avez des projets?
Moi, du coup, lire ses lettres. Lire ses lettres.
On va continuer d'en parler avec vous, Patrick Mille, jusqu'à midi et demi. Mais autour de cette table, tout le monde ne vous aime pas. Voici Morgane Cadignan. Morgane ne vous aime pas.
La gravure.
De pire en pire. Patrick Mille ne vous aime pas, mais enchanté quand même. Oh, c'est joli, je ne vous aime pas, mais enchanté quand même. Ça pourrait être un joli titre de recueil de lettres entre moi et la personne à qui j'envoie le plus de courriers en ce moment, Monseigneur Ursaf de sa grand-mère. Bon, les amis, j'ai déjà crié mon amour aux relations épistolaires avant-hier. Ici, on se parle de quelques centaines de lettres d'un amour clandestin. Alors, qui dit amour par lettre dit souvent amour un petit peu caché. Bah ouais, quand t'es marié et que tout se passe à peu près normalement, c'est vrai que ça perd un tout petit peu de son charme. Mon très cher époux, quand vous rentrerez dans le salon, je voudrais savoir si cela vous embêterait, mon amour, d'enlever vos putains de chaussures avant de marcher sur le tapis berbère. Car non contente de collectionner vos poils dans le bac à douche, comme autant de petites raisons de vous haïr, je dois en plus récurer à genoux ceux du tapis. Et dois-je vous rappeler que la position qui se fait normalement à genoux, nous ne l'avons plus pratiquée depuis de bien nombreuses lunes. Tendrement vôtre. Après, c'est fou de se dire que moi, ça me rassure que les grands hommes politiques aussi pouvaient vivre de grandes passions, parce que tu les écoutes à la télé, ils disent que leur passion, c'est la France et les Français, mais c'est rassurant quand c'est peut-être une Française en particulier. C'est des humains comme les autres, nos petits présidents, là. La seule différence, c'est qu'ils vont au salon de l'agriculture en costume, mais c'est tout, quoi. Enfin, on en fait tout un foin parce que le bureau est grand et mal décoré, mais sinon, c'est normal, quoi. Après, faut dire, c'était une époque avec les mandats que les gars se tapent aujourd'hui, je pense que t'as pas la place pour un amour clandestin. Je dis pas que la vie était plus douce quand tu vivais sous Mitterrand, sans parler forcément d'Anne Pinjot, mais de tout le monde. Mais maintenant, que tu sois d'accord ou pas avec le gouvernement, c'est quand même des tranches de 5 ans, mais d'une violence inouïe. Entre les gilets jaunes, les grèves, les pandémies, si t'as le time pour entretenir une romance, c'est que clairement le gars a laissé le pays à l'abandon. Bon, maintenant que j'ai dit ça haute voix, on va quand même aller fouiller ces textos. Mais moi, les amis, moi qui ai voulu un moment devenir présidente pour les petits colliers de fleurs à l'aéroport de Java, et parce que je trouve ça coolos de bloquer toute la rive gauche quand je sors acheter des capotes, bah franchement, je vais changer de voix. Mais j'aimerais bien entretenir une jolie romance épistolaire quand même, parce que dès que j'ouvre ma boîte aux lettres, je voudrais autre chose que des brochures de pizzeria et le petit carton des numéros utiles de mon arrondissement. Ouh, la police, c'est toujours le 18. Dis donc, heureusement qu'on a déraciné 60 arbres pour me le rappeler, c'est pourquoi. Messieurs, dames, j'en appelle solennellement au président de la République, Emmanuel Macron.
Laissez-le tranquille, enfin.
Cher monsieur Macron, je vous regarde religieusement et régulièrement à la télé depuis 2 ans. Et je vous le dis honnêtement, vous avez l'air crevé, mon vieux. Vous nagez dans votre costume. Édouard Philippe, on le voit plus, il gambade avec les autres depuis que c'est devenu un descendant dalmatien. Et Jean Castex, plus ça va, plus on dirait le petit vieux du Pixar là-haut. C'est pourquoi je vous propose non pas d'être votre époux, je serai une première dame à chier, je porte très mal le Saint-Laurent. Et... j'ai jamais réussi à monter la petite maison pièce jaune sans déchirer le carton. Faites de moi votre premier ministre. Je vous emmènerai passer des vacances en Guadeloupe où, promis, les Antillais vont vous réserver un accueil plus que chaleureux. Pas besoin de maillot de bain, nous n'aurons pas besoin. Notre correspondance par texto sera jouée par Patrick Mille dans 20 ans, qui du coup aura beaucoup moins de textes à apprendre. Les gens descendront des ronds-points pour venir y voir des pièces. Ne serait-ce pas formidable? Allez, vive la République, mais surtout, vive l'amour et, par pitié, plus que jamais, vivez le théâtre.
Merci, Morgane.
L'avant-dernière, c'est ce soir. La dernière, c'est demain à 20h au Métropole Théâtre. Donc vendredi et samedi, ce soir, demain. Voilà, vous savez quoi faire.
Et moi, j'y étais hier, c'est trop, trop bien. Donc, voilà. Il faut absolument y aller. Le théâtre, justement, il y a des lectures sur scène qui se font. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'être... de faire une lecture de ces lettres, c'est-à-dire d'être physiquement, parce que là, Morgane rappelait que c'était un travail d'acteur, de tout apprendre par cœur et de jouer sur scène. Travail très conséquent, pendant une heure et demie seul en scène, à connaître par cœur tout ce texte et ce monologue, un peu le même que celui de ma question là maintenant.
On va où là,
une lecture, quoi.
Et c'est,
rien de nouveau.
Voilà, et c'est facile de prendre finalement le livre. De feuilleter, de lire.
Mais dès le départ, c'est ce que j'ai. Dans ma lettre à Anne, d'ailleurs, je lui ai dit je ne veux pas faire une lecture, je tiens à faire un spectacle. Parce que pour raconter cette histoire, il fallait que ça soit comme un spectacle, comme un long monologue.
Pourquoi
amoureux. et raconter cette histoire. Et
pourquoi un spectacle justement avec des musiques, beaucoup de musique.
Beaucoup de musique, ouais, parce qu'Étienne Mitterrand aimait beaucoup la musique. On ne le sait pas, c'était un fou de chansons françaises. Ligné Scudero, magnifique.
C'est une sorte de gimmick d'ailleurs, hein.
Antoine Salaire qui a composé la musique du spectacle reprend le thème sur différentes versions suivant les moments.
C'est génial d'ailleurs.
Et ouais, c'est un grand compositeur, Antoine. Et Mitterrand adorait la chanson française. C'est pour ça qu'à un moment, je me permets aussi de faire quelque chose qui n'était pas prévu.
Alors justement. Là, il faut demander une autorisation pour faire ce que vous avez fait ou pas?
Pour reprendre.
Est-ce qu'on en parle ou pas d'ailleurs?
Oui, on peut en parler.
Vous chantez. Mmh.
Je chante à un moment, Mitterrand se transforme en crooner et il chante une chanson de Serge Vajiani qui s'appelle Et puis.
Voilà, et que nous avons là.
Je t'aime, toi, qui ne sera jamais une grande personne. Ne me quitte jamais.
Tout ça, c'est à cause de vous, parce que le jour où vous m'avez invité à Taratata
avec
Benabar pour chanter dans ce lieu fou,
le Zénith, oui.
J'ai pris la confiance.
dans
tous mes spectacles, maintenant, je chante.
Sincèrement, si j'avais su, j'aurais évité.
C'est ta faute.
Tu te rends compte, on annule Taratata à jamais. Lors du jugement dernier, la liste.
C'est votre faute. Après, j'ai fait Aragon, j'ai chanté, là, je chante.
Mais c'est pour ça que tu rentreras pas au paradis.
C'est à cause de toi aussi.
Ce point précis.
Il y a d'autres trucs.
Tu vas faire la queue en tout cas.
Et Vianney, c'est à cause de toi aussi.
On passera devant toi. Voilà.
Pour en venir là, il faut, au-delà d'avoir l'idée de la mise en scène, le choix de la chanson, est-ce que là, il faut demander une autorisation aussi? Parce que on est à ça du détournement.
Non, parce que c'est que la chanson de Reggiani, c'est un moment, c'est de l'artistique. Je me dis, voilà, il écoute Reggiani, je le chante, et puis la chanson de Reggiani, elle se poursuit comme un karaoké, et là, je mets les mots de Mitterrand. Et tout d'un coup, il y a une lettre de Mitterrand qui est magnifique.
Il essaie de
la rattraper, la quitter encore une fois, chagrin d'amour. Et là, il lui fait une déclaration qui termine. Je ferai un très très bon mari espagnol. Je ne te laisserai pas avoir de grandes vacances, ma bien-aimée. Et tout ça, c'est complètement fou. Et puis il passe par des actes de je suis amoureux de ta bouche que je bois, qui me boit. Enfin, c'est sublime. Et tout d'un coup, j'ai fait oui, c'est vrai. Là, c'est une improvisation presque chantée sur la musique de Reggiani. Alors, on demande juste les droits de la musique de Reggiani.
Il y a toutes les facettes entre guillemets dans cette liaison. Il y a en effet le côté historique de tout ce que la France a pu vivre pendant les 60 dernières années. Il y a évidemment comment un homme politique se fabrique, se construit et se solidifie pour aller affronter les suffrages, aller affronter les manifestations, aller affronter les autres dirigeants à l'étranger. Et puis, il y a cette notion psychanalytique dont on a commencé à parler tout à l'heure, et de l'érotisme aussi, c'est-à-dire que il y a toute une série de phrases où d'abord il dit merci pour certaines choses, il dit pardon pour d'autres choses, pardon pour mes genoux entre tes genoux.
Mais, oui,
c'est
oui.
Ça, non, je crois, de mémoire.
Mon âne, pardonne-moi. Mon sang pour mes larmes. Mes genoux entre les tiens. Ouais, mais pardon pour mes genoux entre les tiens, pour mon désir, pour mon sommeil.
Il parle de sa main qui s'arrondit sur la forme de son sein. Enfin voilà, donc
voilà, de son flanc courbe et de son ventre convexe, de nos corps qui se sont arrangés comme un jeu de construction, creux et bosses en ordre. Du jaillissement de mon sang au fond de toi. Enfin, non, c'est quand
Bref,
même.
C'est pas qu'une correspondance littéraire, on l'a bien compris.
Il y a beaucoup de géométrie.
Il faisait pas
aussi,
que s'envoyer des lettres, quoi.
Géométrie, toujours.
Oui, toujours.
Mais c'était en même un temps, architecte. Pour s'écrire aussi longtemps, précision. Il faut quand même qu'il se passe un truc, sinon.
Non, mais qu'il se passe un truc, oui. Qu'il l'écrive, qu'il. Toi aussi. Qu'il l'écrive.
On a l'image.
Salut à toi, l'ami.
Alors, faut expliquer. Alexis le Rossignol a fait coucou, a levé la main pour prendre, je pense, la parole, qui malheureusement a été bafouée.
Non mais arrête avec le salut nazi, Alexis, c'est,
oui,
mal,
c'était
interprété.
Gênant, c'était gênant.
C'est mal interprété.
C'est très
ou alors il a appelé un taxi. Mais...
Non, pour en revenir à, ces, non, à, cette, il à cette correspondance.
C'est là où on le découvre aussi, c'est-à-dire que c'était un homme de chair
évidemment.
Aussi, et voilà, d'esprit et de chair, et ça c'est très plein de lui, donc c'est très intime. Les gens sont assez surpris, je vous avoue. Ils découvrent. Alors des gens, qui sont pas du tout mitterrandolâtres ou que ce soit, ils disent, là, je découvre un écrivain. Parce que c'est vraiment ce qui ressort aussi en premier lieu, c'est la qualité littéraire du texte, beaucoup clairement, plus que dans ses écrits politiques. Et puis, c'est cette chose folle d'intimité, d'homme charnel, d'homme passion absolue.
C'est un écrivain et c'est un lecteur, parce qu'il cite aussi beaucoup de livres qu'il lit de correspondance et qu'il cite d'ailleurs en référence. Alexis Le Rossignol.
Là, justement, Mitterrand était connu pour ça, pour être un lecteur et surtout quelqu'un qui avait envie d'écrire mais qui n'avait pas publié de roman ou de choses comme ça. Donc il y a une forme de compensation peut-être à travers ces lettres-là.
Est-ce qu'il savait que ça serait publié un jour? Peut-être. Elle l'a dit, il savait que je gardais tout. Donc quand dans il savait que je gardais tout, en gros ça voulait dire un jour peut-être cela sortira.
Comme une sorte de message posthume.
Oui, mais vous savez, comme c'était quelqu'un qui travaillait aussi pour la postérité, il savait que toute chose allait être marqué et viendrait un jour être révélé.
Il avait quand même une très haute estime de sa personne.
À juste titre.
Objectif,
c'est une intelligence pareille, je pense qu'on n'en voit pas tous les jours.
Il faut venir plus souvent ici. Vous verrez.
Je crains l'enchaînement.
Nous avons de très beaux invités. L'enchaînement est tout trouvé.
La beauté.
Alexis Le Rossignol.
Et bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Alors, la semaine dernière, c'est le repas de Noël de Radio France. Bon, ben, j'y suis allé, hein. J'allais pas rater ça. Ça aussi, ça fait partie des réflexes de prolo, tiens. Alors, en entrée, il y avait du foie gras et en plat, tourne-d'eau au filet de canard.
Mais non.
J'ai dit, vous avez une option végétarienne? Parce que j'essaie de diminuer ma consommation de viande. Ils m'ont dit, ben, si vous voulez, vous mettez plus de légumes. J'ai dit, d'accord. Et ben, ça marche, hein. Proportionnellement, il y avait moins de viande dans l'assiette. J'ai diminué sans effort. Pensez-y pour les fêtes. Alors, j'y suis allé seul parce que, à la cantine de Radio France, ils ont mis des plexiglas sur les tables pour séparer les gens. Du coup, t'as un peu l'impression d'être au guichet de la poste quand tu manges avec quelqu'un. Mais sans les petits trous pour que la voix passe. Donc tu dois parler au-dessus ou sur le côté, comme ça les autres font pareil, tout le monde parle fort. La cantine, c'est un poulailler, quoi. Alors j'arrive, je cherche une place libre et je m'assois face à un monsieur qui mange seul lui aussi. Donc je lui dis bonjour, il me dit bonjour, salutations réciproques, tout ça. On commence à manger. Chacun de notre côté du plexiglas, en faisant semblant d'ignorer la présence de l'autre, un peu comme dans un ascenseur. C'est vraiment un repas de Noël qui respire la convivialité.
C'est ça.
Et deux minutes plus tard, arrivent deux jeunes filles qui s'installent à côté de nous. Et l'une dit à l'autre, c'est qui ces cons qui ont mis ces trucs-là? En parlant des plexiglas. Et là, le monsieur en face de moi la regarde et lui dit, c'est con, c'est moi et mon équipe. Le malaise! Ce genre de malaise, j'appelle ça des malaises fromage blanc, moi. Ça, la consistance du fromage blanc, c'est épais, c'est un peu lourd, c'est un peu gras. Et on l'a tous connu, quoi. C'est le malaise au bureau, quand tu balances un truc du genre, mais il fait chier Barbier avec ses réus, là. Et à ce moment-là, tu te rends compte que le fameux Barbier est là, derrière toi, et qu'il a tout entendu. Et qu'il te dit, pardon, tu disais, avec ce ton un peu sadique du chef qui savoure sa position de force. Alors toi, t'es là, non, je disais juste qu'hier, je suis allé chez le barbier par surprise. Ils peuvent pas être ailleurs, les gens, quand on les critique. Et donc là, la fille essaie de s'en sortir. Et elle dit, j'ai pas dit, c'est qui, c'est con qui ont mis ça. J'ai dit, c'est quand qu'ils ont mis ça. Et là, le monsieur lui répond, j'ai pas entendu ça, moi. Forcément, elle avait pas dit ça.
Bonne ambiance.
Mais je la voyais mal répondre, ah, c'est vous les gros cons qui installez des flexiglas sur les tables de la cantine. Ah bah enfin, on met des visages sur des actes. Et à ce moment-là, le monsieur me regarde pour que je confirme qu'elle a bien dit ce qu'elle a dit. Et petit détail, il a un opinel dans la main. Parce que les gars de la maintenance, ils ont un port d'armes. Hein, il faut le savoir. Vous avez remarqué ça? Ils viennent bosser en treillis, ils ont des maglites. Tu sens qu'ils peuvent réparer des joints et aussi faire sauter des ponts au besoin, quoi. Donc du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Je dis, bah oui, madame, vous l'avez bien dit, on a tout entendu, quoi. Non, j'ai pas dit ça, évidemment, j'ai dit, lo siento, señor, no hablo francés.
Ce que je fais un peu quand je gonflé.
Non, mais voilà, quoi, j'avais rien demandé, je voulais juste manger mon repas de Noël tout seul, dans un esprit de fête et de partage avec moi-même. Et résultat, je me retrouve pris à partie dans une affaire de mœurs. Fallait que ça tombe sur moi, quoi. Alors tout ça, ça s'est passé la semaine dernière, et j'ai réfléchi depuis. Et en fait, je trouve qu'il n'y en a pas un qui ait raison dans cette affaire. Certes, c'était une parole déplacée de la part de la jeune fille, mais on a tous des paroles qui nous échappent, et ça ne veut pas dire qu'on pense vraiment ce qu'on dit.
Évidemment.
Par exemple, quand on dit à quelqu'un « va te faire foutre », en disant ça, on ne souhaite pas vraiment que la personne nous prenne au mot. Et ça, on l'a tous compris. C'est pour ça que le pourcentage de gens qui, en entendant ça, prennent l'initiative d'aller est quand même très faible.
Voilà,
donc cette chronique s'adresse à tous les gens qui surprendront des collègues. Des élèves ou des amis en flagrant délit de bitchage à leur encontre dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Faut pas prendre les choses personnellement. Moi, je revendique le droit à la parole malheureuse, voilà. On devrait avoir un quota annuel de droit à l'erreur, à la langue qui fourche ou à la petite phrase mal placée. Donc Nagui, par exemple.
Qu'est-ce qui s'est
passé ? Si vous entendez quelqu'un dire du mal de vous,
oui.
Au hasard, Daniel, ou Leïla, ne prenez pas les choses au premier degré. Je dis pas qu'ils l'ont fait devant moi la semaine dernière à la machine à café et que ça m'a surpris. Et je dis pas qu'ils le feront, mais si ça arrive, voilà. On reste zen. Christophe André attitude. Hein. En plus, Dale et Daniel, Dale, c'est les deux en à la fois. Ils s'en veulent, hein, ils me l'ont dit. Voilà. Allez, bonne journée. J'ai écouté la fin.
Mais redis-la, s'il te plaît, pardon.
J'ai dit, en plus, Daniel, il s'en veut. Il me l'a dit.
Tu pars. Merci. Allez, si. Ça valait la peine que j'entende cette fin. La musique est présente, oui, il y a cette chanson de Lenny Escudero dans votre spectacle, Patrick Mill.
Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et me voilà.
Il y a cette chanson de... Tu voulais dire que
j'ai oublié, pardon, excuse-moi Alexis. Bah si, c'est important, t'es sur scène, t'es au République les 25, 30 et 31 en décembre.
Plus,
en plus,
ça va être gay.
Pour ces dates, alors il faut aller voir Alexis Le Rossignol sur scène.
Bah oui, pour pas qu'il soit tout seul au réveillon, t'as pas d'amis.
Il faut surtout ne pas aller le voir manger. Il faut aller le voir sur scène, ça c'est sûr.
Il y aura des légumes.
Et vous chantez cette chanson de Reggiani.
Je t'aime, toi.
Et alors, moi j'ai découvert une chose. J'ai découvert le François Mitterrand hippie.
Ah. Hippie, ouais.
Qui aimait San Francisco.
Ah, il adorait San Francisco, c'était une de ses villes préférées.
Je croyais qu'il aimait l'Égypte.
Avec Rio. Ouais. Non, très hôtel. Voilà, on découvre, c'est un Mitterrand révélé dans ce spectacle. Et là, il adorait San Francisco.
Qu'il compare à Rio. Enfin,
qu'il compare à Rio, plus, à la beauté de ses collines, de sa baie profonde. Et il va là-bas et il veut voir le spectacle hippie. Et là, il est terrassé par ce qu'il voit. Il voit des gens drogués. Complètement allongé par terre, dansant avec des tressaillements,
les bras en l'air,
et ce groupe avec des cheveux très longs, des gens très jeunes. Il ne comprend rien à cette musique, surtout du bruit pour lui. Et voilà, et on a pour illustrer ça mis ce morceau de Led Zepp qui est génial, What a Love.
What a Love. On parlera de l'histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi avec Jean Garrigue dans quelques instants. Mais la musique dans la vie de Patrick Mill, on va commencer en 70. Chico ! Déjà, Chico !
Tout vient de l'enfance.
Vinicius et Moraes, mais énorme star de la musique brésilienne.
C'est le pape de la bossa, les grands poètes. Et j'écoutais ça avec mes parents et des amis brésiliens. C'est ce qui m'a fait aimer le Brésil, en fait. C'est cette musique-là, la bossa de Vinicius de Moraes et Maria Bethânia et Caetano Veloso.
Et vous parlez portugais, donc.
Et eu falo português, sou português.
Et oui, vous êtes né à Lisbonne. Vous y avez passé les 5 premières années de votre vie, je crois. Votre mère était portugaise. Votre père, lui, était parti de France pour éviter la guerre d'Algérie.
Oui. Il a déserté.
Il a déserté alors que son père lui-même était un gradé.
Oui, et ça lui a coûté son grade de général. Ouais. Oui.
Avoir un fils qui déserte, ça a une répercussion sur le père.
Oui, sur une carrière, oui.
Bah, il n'y est pour rien, enfin, je veux dire, c'est son
fils.
Oui,
mais l'armée, vous savez, c'est la grande muette. Et donc, du coup, il y a des. Voilà, c'est...
Mais il n'y a pas le droit, comment ça s'appelle, quand on ne peut pas toucher une arme
Ah oui. Objecteur de conscience.
Merci.
Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas d'objecteur de conscience. C'était ils étaient appelés pendant la guerre d'Algérie.
Oui, c'était la guerre, oui, c'est ça.
Oui, c'était la guerre.
Il n'y a pas de débat.
Alors, comment ça s'est arrangé avec votre père
Il est plus revenu en France pendant 10 ans. Et donc, il a rencontré ma mère au Portugal. Il voulait aller en Afrique. Et puis, finalement, il s'est arrêté à Lisbonne.
Mais finalement, voilà. C'est une bonne nouvelle, tout ça.
Oui. Ouais.
Vous ne seriez pas là s'il était objecteur de conscience.
Oui. Ah oui. Et puis, il y a un lien avec la correspondance de Mitterrand et de Anne Pinjot, puisque vous êtes plongé dans la correspondance de vos parents.
Comment j'ai eu l'idée de ce spectacle, c'est parce qu'à la mort de ma mère, je me suis retrouvé avec une grosse boîte de lettres que mon père lui écrivait quand on partait en vacances au Portugal et que lui restait à Paris pour travailler l'été. Et ça m'a bouleversé, ces lettres, j'ai trouvé magnifiques. Et je me suis dit, ça faudrait avoir un spectacle. Mais qui sait que ça va intéresser, même mes cousins de province.
Non, mais on n'est pas obligé de connaître les deux.
Oui, mais enfin... Je me suis dit, c'est trop intime. Mmh. Et puis, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Je peux comprendre aussi comme Mazarine qui dit...
ça n'a rien à voir. Ouais. C'était votre intime.
C'était mon intimité.
Donc, ça vous gênait pour vous.
Ça me gênait aussi. Puis voilà. Et puis, je me suis rappelé de la ferveur de ces lettres de Mitterrand que j'avais pas tout lu, mais parcouru quand j'avais acheté le livre. Et c'est comme ça que l'idée est venue du spectacle. Oui.
En 1989, vous écoutiez Dépêche Mode.
Chanson géniale, ça c'est quand je suis au cours Florent. choc visuel aussi du clip d'Anton Corbijn.
Formidable.
Puis ce groupe, de toute façon, pour moi, c'est le plus grand. Aujourd'hui, c'est le plus grand groupe de rock avec ce chanteur que j'adore, Dave Gahan.
Et à cette époque-là, vous êtes en effet au cours Florent avec les Robin des Bois, avec Édouard Baird. Il y a toute une troupe comme ça qui se crée à cette occasion-là. Vous rêviez, vous, de la Comédie Française?
Oui. Oui,
en
oui.
Vous riez, bah, c'est
j'y
un
rêve.
Rêve
toujours. Bonjour Eric Ruff, c'est Patrick Mille en direction de France Inter. Je fais donc ma demande officielle.
C'est vrai, vous rêvez d'entrer à la Comédie Française?
Aujourd'hui?
Mais j'adorerais. Pour moi, c'est... Vous savez, moi, ce que je préfère dans ma vie d'acteur, c'est jouer au théâtre. Je fais du cinéma, j'adore les aventures de cinéma, de télé et tout. J'adore faire des films, j'en réalise aussi. Mais profondément, là où je me sens le mieux au monde, c'est sur une scène de théâtre. Et donc la Comédie Française, ils ont cette chance de ne faire que ça, de travailler tout le temps, de répéter tout le temps. Voilà.
C'est-à-dire ne serait-ce que l'odeur d'une salle de théâtre, de son rideau, de son plancher, ça vous...
C'est là où je me sens... à ma place.
Il y a une odeur de théâtre.
Ah, il y a une odeur de théâtre, ouais.
D'ambiance.
Et comment on entre en français, alors? Comment on entre en français?
Mais je sais pas. Mais si, il faut le demander. Et puis après, il faut que les gens
vous voient.
Et pourquoi vous ne l'avez pas encore demandé?
Je sais pas si... Oui, ça dépend aussi. Parce que j'ai jamais osé le demander.
C'est ça, oui.
J'ai jamais osé le demander. Après, il faut que ça, il y a un spectacle qui peut-être vienne avec, ils cherchent des acteurs qui correspondent. Peut-être tous les acteurs ne sont pas libres. Et là, l'administrateur peut penser à quelqu'un. Voilà.
En tout cas, vous êtes disponible.
C'est la phrase qui n'a pas de point final.
Oui, voilà, ouais.
Après, je ne sais pas si ça se passe comme ça. Ils ont quand même un vivier assez conséquent
d'artistes. Ils ont beaucoup de monde et extraordinaire. Et des grands, grands acteurs.
Par rapport aux pièces au répertoire, ils ne vont pas aller chercher quelqu'un spécifiquement pour incarner un rôle. Mais je pense que c'est plutôt d'aller vers eux. Et
voilà, je le fais.
Voilà, ok, c'est noté.
Voilà, un jeune portugais, blond, yeux clairs.
Petit clin d'œil à Marie-Gilin que nous avions reçu cette semaine et que vous croisez justement au cinéma.
Puisque vous avez incarné le petit ami de Marie-Gilin dans Mon père, ce héros, Gérard Lozier. C'était vraiment les débuts des aventures cinématographiques de Marie-Gilin.
Oui, et quel souvenir de tournage. 3 mois à l'île Maurice.
Ça va.
Avec Gérard Depardieu.
Difficile.
Voilà, j'ai appris beaucoup de choses.
C'est-à-dire
point de suspension.
non, vous savez, quand vous avez quelqu'un comme Gérard Depardieu et que vous avez j'avais 21 ans et que on va passer 3 mois ensemble et il se trouve que voilà que je
3 mois.
Oui, c'était long à l'époque les tournages.
Bah oui.
On prenait notre temps.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Non, c'est plus le cas aujourd'hui. À part le film que je fais en ce moment qui est Les Trois Mousquetaires, l'adaptation. C'est 8 mois de tournage, puisque on tourne 2 films. Non, c'était. Vous savez, Gérard Depardieu, c'est hors norme, c'est incroyable, c'est pour moi le plus grand acteur français. Et donc, d'être à ses côtés, de vivre à ses côtés, on était dans le même hôtel et tout, il n'y avait pas de séparation. Moi, j'ai appris beaucoup de choses.
97, vous écoutiez.
Ça peut pas faire autrement que m'écouter.
À chaque fois que j'entendais cette musique, c'était avant l'antenne, le centre de visionnage sur Canal. J'avais un trac.
Avant ?
C'était que des impros. Édouard, il nous appelait à 14h. T'es libre, tu viens au centre de visionnage ce soir. C'était un gros bordel. Et on arrivait.
C'était pendant une petite salle.
C'était un tout petit cagibi.
Réduit. Ouais.
Et une heure avant l'antenne, ils disaient bon, alors on va faire ça. Aujourd'hui, tu es ça. Vas-y, on improvise. On commence à faire des dialogues improvisés. Et puis, ce qu'on trouvait drôle, on le gardait. Et là, il y avait l'antenne et c'était du direct. Et donc, cette école du direct dans une émission qui était très regardée, avec à chaque fois des invités très prestigieux. Et nous, on faisait notre folie, notre
et
petit Chico, théâtre.
Mais ça met en confiance.
D'être avec Édouard Baird. Non, mais surtout, on était amis, camarades de cours de théâtre. On se connaît. Voilà. Et donc, du coup, c'était on était très. On était. Voilà. Donc, non, mais il y avait une grande confiance entre nous.
C'est Johnny. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel, je finis pas mes phrases.
Oui, voilà.
Avant Chico, Patrick, il y a eu Moulard.
Moulard.
Ouais.
C'est qui Moulard?
C'était votre personnage, un des premiers personnages, le fan qui était très chiant.
Ah oui, ça c'était le premier, ça.
C'était le premier.
Oui, mais il m'a épuisé celui-là.
Et, Chico, vous n'avez pas épuisé.
Non, Chico, ça m'a pas épuisé. Ça m'a fait gagner de l'argent.
Ouais. Oui, vous avez créé ce personnage tout d'un coup.
Personnage. Et,
vous avez...
et puis je me suis beaucoup amusé avec Chico. Mais c'était un monde, Chico. Bravo. C'était un monde. Mais c'est pareil, Chico, c'est né d'une impro. Au départ, ça devait être un sketch. Et puis finalement, il y avait quelque chose qui s'est passé le soir où on l'a fait. Je me rappelle que De Greffe était descendu en me disant ça, il est marrant ce personnage. Et puis voilà, on l'a refait. Puis c'est
Alain De Greffe qui était le directeur des programmes, mentor de toutes ces émissions. 2012, vous écoutiez.
Ben ça c'est Izia, l'actrice de mon principal de mon premier film.
Mauvaise fille,
et que j'avais vu. Comment j'ai eu l'idée? J'étais en train d'écrire le scénario avec Justine Lévy et ma femme. Et il y a les Victoires de la musique. Nous sommes à la campagne avec des copains, on regarde les Victoires. Et là, je vois cette fille arriver, chanter, et tout de suite dans ma tête, c'est elle. C'est-à-dire que le rôle qu'on était de l'adaptation de son livre. Mauvaise fille, c'était Izia, c'était une évidence. Et elle le savait pas, et pendant 2 mois, on a écrit le scénario en pensant à elle.
Et là aussi, pardon de faire le parallèle avec Lettres à Anne, mais c'est vrai que Mauvaise fille, on est dans de l'histoire vraie, qui devient de la littérature, et c'est exactement ce que vous revivez là maintenant, c'est-à-dire que la littérature, l'art, le spectacle doit passer par la vérité du vécu.
Oui, j'aime la vie. Pour moi, la vie est une richesse pour les fictions et pour l'art. Donc, partir de ça, du matériau vivant, c'est...
Oui, la fiction, c'est aussi l'invention, l'imaginaire, et pas forcément la véritable correspondance ou la véritable histoire. Ça s'appuie sur la réalité.
Mais moi, ce qui me touche, en tout cas, quand j'essaie de créer quelque chose, c'est de partir... En général, souvent, je fais pas forcément exprès, mais ça part de choses très... très vécu, très vrai.
Et pas évident de commencer avec l'adaptation d'un bouquin de votre épouse. C'est en termes de difficulté.
Peut-être pas, parce qu'en fait, je pense qu'un premier film, il faut que ça soit toujours très personnel. Mmh. Et une première...
Là, vous êtes servi.
Oui, voilà. Mais j'ai pas joué dedans.
Lettres à Anne, c'est au Théâtre du Rond-Point, et ensuite ça partira en tournée. Il y a Patrick Mille qui est sur scène, mise en scène par Benjamin Guillard, et puis surtout, la France, les images, là aussi, c'est assez impressionnant comme ça de voir défiler tout ce qui a pu se passer pendant ces 60 années, que ce soit dans les manifestations, dans les inventions. La peine de mort, les débats, les grandes phrases politiques, c'est extrêmement enrichissant. Je comprends mieux que des classes entières viennent pour assister à ça. On va justement parler de l'histoire de France et de l'Élysée en particulier avec vous, Jean Garrigue. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes historien universitaire. Vous avez donc signé aux éditions Payot d'une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi. Et on sent que les histoires d'amour ont été nombreuses, que les sorties,
récemment, là,
les sorties des portes, mal de service, elles finissent toutes mal.
Non, elles finissent pas toutes mal. Non, ce qui est rigolo, c'est que ça fait à peu près 20 ans que je fais des livres d'histoire, d'histoire politique. Et puis là, sur une commande, d'histoire érotique de l'Élysée. Au début, j'étais un peu réticent parce que finalement, je me disais que bon, c'était un peu de la petite histoire. Et puis je m'aperçois
on n'est pas loin du paparazzi.
Alors je m'aperçois d'une dans les salons du livre que c'est le livre qui intéresse le plus les lecteurs. C'est en général vous avez un couple qui vient et puis il s'intéresse, il feuillette et puis après 10 minutes après c'est le monsieur qui vient et puis qui me demande de lui dédicacer. Donc je me suis aperçu qu'il y avait un certain intérêt. Mais en fait moi ce que j'ai essayé de montrer et c'est un lien direct avec François Mitterrand. Tout respect mis de côté sur les qualités littéraires, c'est que en fait, notamment sous la Ve République, nos présidents ont eu tendance à avoir des comportements de prédateurs par rapport à leur rapport aux femmes, des comportements de prédateurs et de séducteurs aussi, hein, parce que c'était pas la prédation est pas toujours négative, mais il y a toujours
La prédation est négative.
La prédation est négative.
Sinon, on peut appeler ça que séducteur.
Je pense que le moteur souvent est était la prédation. Mais le résultat, c'était souvent la séduction. Par le pouvoir. Et ce qui m'amusait, c'était de voir, et c'est pour ça que l'ouvrage commence avec la Pompadour, c'est que la manière de concevoir ce pouvoir de la part de monarques républicains, parce qu'un président sous la Ve République, c'est un monarque républicain, ressemble beaucoup à ce que faisaient précisément les Louis XV, Louis XIV, sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité.
Quand vous le dites comme ça, c'est presque plus fort qu'eux. C'est-à-dire que d'un coup, avec le pouvoir, ils se rendent compte qu'ils peuvent tout se permettre et qu'ils sont intouchables. D'ailleurs, l'histoire prouve que ce n'est pas forcément le cas, mais et ils deviennent des prédateurs. Ça veut dire des quoi? Des violeurs, des agresseurs?
Non, mais le terme de prédateur est excessif. J'aurais pas dû l'employer. Certains ont eu un comportement quand même assez, plus que machiste avec les femmes. Y compris peut-être François Mitterrand. Enfin, par exemple, son chauffeur, Pierre Tourlet, disait que Mitterrand lui parlait de ses menus pour la journée. C'est-à-dire, il avait un hors-d'œuvre, un plat principal et un dessert. Alors, est-ce que ça, c'est de la déformation de la part de son chauffeur? Ça, bon, il faut toujours se méfier des témoignages. Mais il y a des anecdotes aussi qui racontent.
Évidemment, les chauffeurs, entre celui de Chirac qui a balancé aussi, une source d'information.
C'est une source d'information. Moi, j'ai cherché tous ceux qui pouvaient m'apporter des choses. Mais je commence au XVIIe siècle.
Vous pensez qu'avec Vélib, on va beaucoup perdre d'informations sur les présidents de la République?
J'en ai peur. Je pense que c'est surtout avec les réseaux sociaux le smartphone qu'on compare beaucoup, c'est-à-dire que
il y a des choses qu'on peut plus se permettre. Si tu reviens, j'annule tout. C'est un texto. Ouais.
C'est vrai. Mais alors, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a commencé l'exposition de tout ça, en fait.
Est-ce que une personne a influencé une loi essentielle de notre pays, que ce soit l'abolition de la peine de mort ou que ce soit le nombre d'heures pendant lesquelles on doit travailler ou le nombre de semaines pendant lesquelles on peut se reposer? Est-ce qu'il y a comme ça des grandes décisions qui ont été prises, qui nous ont marquées et qui viennent d'une histoire d'amour?
C'est parfois plus subtil que ça. J'imagine que la relation, la relation entre un jour, pour rester sur le magnifique spectacle de monsieur, la relation entre Anne Pinjot et François Mitterrand, j'imagine qu'à travers leurs échanges, il y avait aussi quelque chose qui se jouait, des idées, une manière de voir la vie. D'ailleurs, c'est ce qui me touche beaucoup dans cette relation, c'est quand il lui dit avec toi, je sors de moi. Et ça, c'est passionnant parce que moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé dans la vie de François Mitterrand, c'est que en 1938, il tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelait Marie-Louise Terrasse, qui est devenue Catherine Langeais, grande présentatrice que moi j'ai connue étant petit. Et vous avez peut-être connu aussi, mais vous êtes beaucoup trop jeune. Et donc,
vous voulez plus me parler, on est d'accord.
Non, mais cette relation-là, elle l'a profondément marquée parce que elle l'a quitté pour un autre. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui l'a totalement bloqué dans son rapport aux femmes, en tout cas qu'il l'a laissé complètement sur sa réserve.
Il est jaloux, il le dit et il écrit beaucoup à Anne Pinjot aussi. Il ne supporte pas l'idée qu'un autre touche. Ouais.
Mais avec Anne Pinjot, il devient vraiment un amoureux. Ce qu'auparavant, il n'avait pas été.
Réédition aux éditions Payot, donc d'une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour jusqu'au Paparazzi. Merci Jean Garrigue d'être venu à ce micro. Voici le prix de la semaine, monsieur Tom Villard. Quel prix alors cette semaine, Tom?
Aujourd'hui, on va décerner le prix du meilleur scénario de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont... On est nommé les candidats de Koh-Lanta qui auraient mangé en cachette.
Ah oui.
Pendant le jeu, parce que dans la vie, on s'en fout sur ça. Il faudra juste m'expliquer comment on leur fait faire une épreuve d'orientation où ils doivent chercher un poignard dans la forêt, ils mettent 5 heures à le trouver. En revanche, pour trouver une part de pizza, il leur faut 10 minutes. On sait pas. Deuxième nommé, alors c'est assez rare pour le souligner, les magistrats sont en grève pour réclamer plus de moyens, ils ont trop de travail, alors il n'y a pas 36 solutions, soit on augmente le budget de la justice, soit on arrête d'enquêter sur Sarkozy et ses anciens ministres. Et troisième et dernière nommée, Anne Hidalgo, qui au vu des sondages a lancé l'idée de faire une primaire de la gauche. Tout le monde a décliné, donc pour le moment, elle fera une primaire toute seule. Et le pire, c'est qu'elle serait capable de perdre en plus. Et le grand gagnant dans la catégorie du meilleur scénario de la semaine,
c'est
Koh-Lanta. Donc oui, ce matin, on va parler de Koh-Lanta. Ouais. Si vous aviez un doute, c'est sûr, vous écoutez pas Le Masque et la Plume. du coup, la 20e saison de Koh-Lanta s'est achevée mardi sans qu'aucun gagnant ne soit désigné. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Pas pour eux, hein, pour nous. Parce que ça fait 4 mois qu'on attend de savoir qui sera le champion de tous les champions de Koh-Lanta. 4 mois que j'ai pas eu un mardi soir. Et là, il n'y a pas de fin. Déjà, j'avais été très déçu par la fin de Lost, de Game of Thrones, les Gilets jaunes. La fin était toute pourrie aussi. Alors pourquoi il n'y a eu aucun gagnant? En raison, je cite la production, d'un manquement au code d'honneur. Alors, le code d'honneur à Koh-Lanta, autant le code d'honneur dans la mafia, je vois, je bosse avec Nagui. Le code d'honneur chez les humoristes, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais à peine celui de rien sur les mamans. Mais à Koh-Lanta, le code d'honneur, effectivement, c'est la bouffe. Voilà, il y en a qu'on bouffait en cachette. Moi, le truc qui m'embête, c'est que cette saison, c'était le Koh-Lanta, la légende. Ils nous avaient vendu, c'était les Avengers, c'était la Coupe du Monde, c'est le All-Star, quoi. Là, ils ont tous fait au moins un Koh-Lanta, voire 5 pour certains. Donc là, si tu te dis que la légende, elle craque dès qu'elle voit un Twix. Je veux dire, en tout cas, alors attends, s'il y a des candidats qu'on vous fait en cachette, moi à leur place, j'aurais tout mis sur le dos de Pierre-Jean Chalençon. Bah, dès qu'il y a une connerie, il est là, donc une de plus, une de moins.
Surtout pour manger.
Non mais voilà, alors, dîner clandestin. Alors, on leur interdit pas non plus de manger, donc ils ont le droit de manger tout ce qu'ils trouvent. Après, s'ils trouvent un Snickers ou un Figolu sur la plage, c'est pas de leur faute non plus, mais c'est de la faute du climat. Moi, un coup, j'ai perdu une tongue à Biarritz, je l'ai retrouvée à Strasbourg, à cause du Gulf Stream et des vents. Mais bon, triche, pas triche. Est-ce qu'on est obligé de tout savoir aussi? Moi, il y a des trucs que je veux pas savoir, tu vois, le Père Noël, la petite souris, Patrick Balkany, il y a des mystères qu'on ne veut pas élucider. En revanche, il est hors de question de mettre de l'huile sur le feu, sincèrement. Il y a quand même des téléspectateurs qui sont tellement fans de Koh-Lanta, ils ont menacé de mort certains candidats parce qu'ils avaient bouffé en cachette.
Mais
là, il y a des gens très très premier degré. Alors, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare et désolé si je fais des déçus, mais à Fort Boyard, quand on dit qu'un candidat va en prison, c'est pas vrai. Non mais voilà.
Ah, tu balances.
Okay. Ils vont faire un spa Caudalie à La Rochelle. C'est vrai, je sais pas. Le jour du Seigneur, quand le curé dit Dieu nous protège, il en sait rien. Si ça se trouve, il est sur une plage à Cancun en train de boire une piña colada, on sait pas. Alors ça montre quand même que les Français ont le sens des choses importantes. Un candidat de Koh-Lanta aurait bouffé un pain au chocolat pendant le jeu. Tout le monde se dit choqué. Par contre, un ancien ministre qui a fait de la prison parce qu'il a piqué du liquide dans la caisse, ça choque moins. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas le pain au chocolat le gros problème de notre société? Le pain au chocolat qui avait torpillé la carrière de Jean-François Copé en 2013.
C'est vrai.
RIP Jean-François. Le pain au chocolat qui divise la France avec les pains au chocolat, chocolatine. Alors que. Non, c'est pain au chocolat. Tu dis raisintine? Non, on dit pas au raisin.
Non, voilà, chocolatine.
Ça concerne 3 villages et franchement.
Concerne la moitié de la France.
La moitié
et j'en
de
fais partie. Et donc c'est toi contre moi, Tony.
Non mais c'est vrai. Attention. Et là maintenant l'affaire des pains au chocolat dans Koh-Lanta, parce que deux candidats auraient menacé de faire grève si on leur donnait pas des pains au chocolat. Mais grève de quoi? Déjà pas grève de la faim. Non et grève de on parle plus de toute l'émission. C'est ça la menace. Mais mec, t'es en slip de bain, tu pèses 12 kilos. Moi je t'aurais laissé pourrir sur l'île des exilés pendant 2 mois. On va voir si t'as pas envie de faire l'émission. Non mais c'est a priori certains auraient été assez malins pour aller dans un hôtel de touristes pas loin choper de la bouffe. Je te jure. Après bon ça peut être une épreuve à la limite d'ailleurs. Pour moi, le gagnant, c'est celui qui a réussi à trouver de la pizza. Le but, c'est quand même de survivre. Non, mais si après, il y a un géo du Club Med qui te file une hawaïenne ou je sais pas quoi. D'ailleurs, si tu arrives à faire l'épreuve. Ouais. Oui, la pizza, évidemment. D'ailleurs, évidemment, avec l'ananas. D'ailleurs, si tu arrives à faire l'épreuve des poteaux avec une choucroute dans le bide en plein soleil, c'est à mon avis, c'est toi le champion. D'ailleurs, c'est presque un argument pour la présidentielle. On est en train de nous dire qu'il y a des mecs à 12 000 bornes de chez eux, perdus en pleine nature, en milieu de la jungle, qui arrivent à trouver des pains au chocolat dans la jungle. Mais qu'est-ce qu'ils font, nos migrants? Les migrants à Calais devraient dire qu'ils font l'émission Koh-Lanta et à mon avis, ils seraient mieux accueillis.
Merci, Tom Dudin.
Tous les matins, il achetait son petit pain
au chocolatine.
Et alors
Dominique Bessureau, de quoi vas-tu parler tout à l'heure?
Eh bien, je veux parler de Stéphane Bern qui a quitté Paris, de Patrick Sébastien qui annonce qu'il va quitter Paris.
Mais
c'est
non.
La fuite des cerveaux.
C'est l'original avec Leïla, Gano Boudadi, Morgane Cadignan et qui a un chocolat chaud, Alexis Le Rossignol, Tom Villa, Guy Pastureau, Daniel Morin, notre invité de Patrick Ville. J'ai oublié de dire tout à l'heure, pardon, que Tom serait ce soir à Montrond-les-Bains.
Alors, sera. C'est pas une rumeur, c'est sera.
D'accord, ok.
Mais merci beaucoup.
C'est sûr, on enlève le conditionnel et on met le futur.
S'il y a un train, ça ira.
On est d'accord. Oui, c'est ça, c'est suspense de la tournée de fin d'année. Jusqu'au 31 décembre, Lettres à Anne, c'est au Théâtre du Rond-Point, avec ses correspondances de François Mitterrand à Anne Binjot, avec cette sélection que vous avez faite, Patrick Mille, avec Benjamin Guillard. Cette sélection, vous l'avez faite d'ailleurs pour montrer en une heure et demie toutes les facettes, c'est-à-dire qu'il y ait aussi bien les doutes de l'homme, le côté psychanalytique, les échanges érotiques, la politique, tout est en hic.
Tout est en hic et non, tout s'entremêle. Et...
Qu'est-ce qu'il y a comme autre facette? Il y a aussi, il y a une demande de sa part, parce qu'il y a carrément une lettre où il lui demande de faire un enfant.
Oui.
Avant la naissance.
Oui.
De Bazar.
Mais parce que c'était la condition qu'il avait avec Daniel, qui avait accepté cette relation, c'était surtout pas d'enfant. C'était la cellule familiale, c'est Daniel et les deux garçons. Et en fait, c'était un accord qu'ils avaient.
Je me demande si c'est pas la plus belle preuve d'amour que l'on puisse donner, ce qu'a fait Daniel Mitterrand. C'est-à-dire d'accepter.
Et finalement, elle a accepté.
Cette histoire d'amour.
Elle a accepté cette histoire d'amour, mais je ne voulais pas qu'elle ait l'enfant.
Et de la subir quelque part, cette histoire.
Ouais, finalement, revanche, lui, il n'a pas été très classe, quoi.
Et finalement, il y a eu l'enfant, comment?
Il n'a pas été très classe, finalement, lui, de
Pourquoi
son côté. Bah, si, en fait, elle.
Fais gaffe, Patrick Mille, je pense, est très amoureux de François Mitterrand.
Le seul souhait qu'elle avait, finalement, c'était qu'il préserve ça, cette unité familiale. Et il a
eu. Et on le découvre dans le spectacle. Pourquoi? Il dit, effectivement, j'ai souvent pensé à te faire un enfant. Et j'en serais amputé toute ma vie, et c'est un drame. Et finalement, c'est Anne Pinjot qui décide de l'avoir, cet enfant.
D'accord.
Et qu'il l'a toute seule. Quand je vous dis qu'elle était extrêmement moderne pour l'époque, c'est ça aussi. Elle décide d'avoir cet enfant face à sa famille très bourgeoise.
On est en 74, 75
74, née Mazarine. Et il y a cette lettre magnifique qu'il écrit à Mazarine, d'ailleurs. Mazarine chérie, j'écris pour la première fois ce nom. Je suis intimidé devant ce nouveau personnage sur la terre qui est toi. Tu dors, tu rêves, tu vis entre Anne Veilleur et ce joli animal qu'on appelle le dormeur. C'est magnifique. Et donc ça, il lui écrit cette lettre. Et après, on voit beaucoup de lettres qui s'adressent à Mazarine une fois qu'il est président.
Oui, non, mais il faut expliquer. Il en parle aussi quand il l'a au téléphone. Qu'elle a raté pour une porte, une
compétition
de ski.
Alors qu'il, lui, il est en congrès, il va visiter les pays comme chef d'État. Et il y a tout ça, cette petite histoire intime qui se mêle. Voilà, ces voyages de président. Il se trouve que l'histoire qui est assez dingue, c'est qu'en fait, la vie normale pour Mazarine Pinjot, Anne Pinjot, la famille, et François Mitterrand commence à partir du moment où il est président. Parce qu'à partir du moment où il est président, elle habite donc dans un appartement d'État, qui est branlé, elles sont protégées, et lui vit pratiquement avec elle.
Est-ce que vous pensez avec le recul qu'il y a un rapport de cause à effet entre la défaite à l'élection 74 face à Giscard et quelques mois après la naissance de son enfant?
Alors je ne m'étais pas posé la question, mais c'est très très judicieux.
Moi ça m'a troublé quand j'ai vu le spectacle, l'information arrive tout de suite après l'annonce. D'ailleurs, il y a même le nombre de voix et on se dit que ça ne s'est pas joué à grand chose.
Il y a une concordance des temps un peu, oui, parce qu'on joue aussi avec les images d'archives à un moment, donc il fait cette grande déclaration.
Mais il y a un nombre incroyable d'images d'archives.
Oui, de la récupérer.
Fort,
et vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand, alors qu'il vient de chanter une chanson d'amour. Et tout ça se mêle. Et effectivement, Mazarine naît après cette défaite de 74. Et peut-être que ça aussi, c'est le fait d'avoir cette fille, parce qu'il était fou d'amour pour cette fille, c'était
sa fille. Ça l'a fait gagner après, ça l'a fait gagner, de même que Anne lui a permis de se révéler.
Exactement, ouais. Et là ça lui a donné beaucoup une nouvelle jeunesse, comme toujours un enfant. Et là, en l'occurrence,
En même temps, si elle est née, si elle est née fin 74, c'était avant le résultat que l'enfant a été conçu. Donc,
on enlève.
Mais c'était dommage. J'aimais bien la première version.
Mais on peut garder aussi la version de. Je sais que tu vas être président, donc faisons un enfant avant que tu sois président. Patrick Mille au Théâtre du Rond-Point, Lettres à Anne, l'échange épistolaire entre François Mitterrand et Anne Pinjot. Et voici Monsieur Tanguy Pastorelle.
Quand j'étais jeune, que je vivais à la campagne, je rêvais d'habiter Paris. Maintenant que j'ai vieilli, que j'habite Paris, je rêve de vivre à la campagne. La vie est mal faite. Il doit y avoir un très petit laps de temps, vers l'âge de 30 ans, où on est bien à la fois à Paris et à la campagne. On s'en fout, en fait. À 30 ans, on vous pose dans un coin, ça roule, vous êtes un ficus, quoi. Mais passé 40, on est trop vieux pour tout ça, et surtout, on est sobre. Donc le trajet en taxi dans les bouchons, on en ressent la durée réelle. Et si on vomit, c'est pas à cause des 7 mojitos bu dans la soirée. C'est parce qu'on a essayé de répondre à un SMS, c'est qu'avec les roues de la bagnole, on est malade. Moi, si j'avais le choix, je vivrais ailleurs. Vous croyez que cela le met en scout pour éviter les trous dans la route, ça fait plaisir? Je suis sûr que je pourrais être champion de ski de boss sans jamais avoir pratiqué. Moi, j'aimerais vivre dans un center park. Le bungalow est cosy, il y a une baignoire à bulles. Le matin, on ouvre le store. Oh, il y a des lapins. Ça change du voisin d'en face à poil en train de se gratter la raie. Ah ben, les lapins, c'est mignon. Pourquoi pensez-vous que Disney, dans les dessins animés, mettait des lapins et pas des voisins d'en face à poil? Parce qu'esthétiquement, les lapins, c'est plus beau. Moi, j'échangerais un seul lapin contre tout le Cap d'Agde. Paris, c'est triste, c'est moche, il n'y a jamais rien qui change. La tour Eiffel, bon, bah ça y est, on a compris que le fer, c'était super, quoi. Mais aujourd'hui, ce qui marche, c'est le bois. Foutez-nous des huttes. Elle fait quoi, Hidalgo? Elle nous a ouvert des jardins partagés. On s'est tous mis à faire pousser de la mâche. On mange comme les hamsters et on doit continuer à se taper des vestiges de la révolution industrielle. Paris, c'est atroce. Les pigeons qui bouffent tout ce qui tombe de la brioche dorée sont énormes. Hier, j'en ai vu un tenter d'emporter une vieille dame. Heureusement, elle s'est raccrochée à un rat de la taille d'un veau qui finissait de bouffer un SDF. Et donc, comme Paris, c'est nul, bah, les stars s'en vont. Alors, on a déjà perdu Stéphane Bern, le roi de la pierre branlante et de la porte usée. Il part dans le Perche. Le 25 janvier, il met en vente tout ce qu'il a dans son appart parisien, dont un portrait d'Elisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel, maire de Marie-Thérèse d'Autriche. Alors, très beau portrait. Il faut juste ne pas avoir à expliquer à des amis de qui il s'agit, parce que rien que le nom, ça prend deux heures. Moi, chez moi, j'ai un portrait de Tex. Je gagne un temps fou. Bern vend aussi un lustre signé Hervé van der Straten, mec dont on devine vite qui n'est pas d'origine italienne. Quand on a des meubles, la signature, c'est important. Ah, moi, j'ai une commode signée Butte. Elle coûte quand même 19,20€ sur le bon coin. Donc, Stéphane Bern s'en va. Alors, il parle de Paris comme étant une ville violente, enlaidie et sale. Je pense qu'il ne sera pas invité au vœu de l'hôtel de ville. Et hier, je suis tombé sur une interview de Patrick Sébastien. Dieu a sans doute voulu me punir d'une mauvaise action. Il était invité du Buzz TV, une interview en ligne pour TV Magazine. Donc là, il commence à parler politique. Il dit « Éric Zemmour dit des vérités formidables ». Bon. Et ajoute « Mais je n'adhère pas à son truc ». Alors, je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour voter pour quelqu'un que trouver qui dit des vérités formidables. Hein, je crois que l'électeur, en fait, est devenu trop exigeant. Même Éric Zemmour, le jour du scrutin, va dire « Je voterai bien pour moi, mais au fond, est-ce que je le mérite ?» hein, tout en manipulant une tête de squelette humain. Puis, le journaliste enquille sur Anne Hidalgo, parce qu'il sait qu'Hidalgo est plus clivante que le chou de Bruxelles. Hein, soit on l'adore, son mari, son fils et les deux derniers socialistes, soit on la déteste, le reste des gens. Personne ne dira jamais « Moi, Anne Hidalgo, je l'aime bien !» Et là, Patrick Sébastien, qui démarre direct, puisque son cerveau est relié directement à sa bouche, sans processus de filtrage des données, dit « Ah non, pas Anne Hidalgo, elle a fait de Paris une ville crade, il y a des travaux partout. » Alors, c'est vrai qu'à Paris, parfois, des types font un trou en plein milieu de la route, foutent des barrières autour, et il se passe rien pendant 3 mois. Hein, si ça se trouve, c'est un jeu de piste, il y a un papier au fond avec un indice, mais comme personne n'est au courant, ça marche pas. Et Sébastien ajoute « Hidalgo, c'est notre drame de Paris. » Donc là, en tant que professionnel, je valide, on est sur une fin d'année, je suis claqué, mes critères sont bas. Hein, le premier qui me dit « tire sur mon doigt », je réponds « Ah, génial, le nouveau king du stand-up, quoi. » Mais là où c'est grave, c'est que Sébastien, dans l'émission de Pascal Praud sur CNews, a réitéré ses propos. Il a dit « La ville de Paris n'est plus la même. Je veux m'en aller. » Alors attention, « Je vais et je veux », ce n'est pas pareil. « Je veux » ne signifie pas qu'on va le faire. Un copain un samedi soir qui vous dit « Je vais faire l'amour », c'est plus rare qu'un copain qui vous dit « Je veux faire l'amour ». Hein, dans l'absolu, tout le monde veut faire l'amour. Hein, là, moi, je serais mieux à faire l'amour qu'à faire une chronique. Voilà. Bon, ok, je ne serais pas payé. Quoique, hein, si je me spécialise sur les vieilles personnes un peu désespérées, je peux bien faire 30 euros par jour. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a perdu Stéphane Bern, que Patrick Sébastien va se barrer. Il ne va plus rester que des anonymes à Paris. C'est affreux. Des René Sanchez qui parlent à des Sandrine Dumas. La ville lumière est éteinte, tel le cierge dans la nef de l'église quand le prêtre veut un peu d'intimité avec les gosses. Alors après, ok, Paris c'est sale, c'est le foutoir, c'est gris, ça pue, mais est-ce que c'est plus sale? Ou est-ce que c'est nous qui vieillissons? Bern, 58 piges, Sébastien, 68, moi, 47. On n'a plus l'âge pour tout ça. Laissons Paris à Tom Villa, Morgane Cadignan, qui ont encore des choses à y vivre. Leur corps vibre, ils ont des désirs, donc ils s'en foutent des rats. Et nous, les vieux, on se barre. Pitié, Leïla, emmène-moi dans le Poitou.
Merci.
Et oui. Et toi, tu nous emmènes le 13 janvier à Biarritz, à la gare du Midi.
Ah oui, on dit chocolatine
là-bas. Là-bas, on dit chocolatine. En fait, si vous voulez manger, continuez à manger du pain au chocolat, c'est une sorte de pain au lait avec une barre de chocolat dedans. Moi, je veux de la chocolatine
deux barres
une pâte feuilletée. La différence, elle est là. Si tu mets une pâte feuilletée, tu manges une chocolatine. Pain au chocolat, c'est un pain au lait avec du chocolat.
Bah, va à la première boulangerie, ils vont te regarder avec des yeux ronds.
Et ben, tu sais quoi, à chaque fois que je demande une chocolatine, on me donne une chocolatine.
C'est pour que tu partes plus vite.
Mais non, même on te donne pas un chocolat.
Mais non, on me donne une chocolatine quand je demande une chocolatine.
C'est parce que les gens sont terrorisés.
Ah, t'as vu, t'as essayé, ça marche.
Et notre invité est.
Bonjour. Non, notre invité est parti.
Vous dites quoi, vous? Moi, je dis pas au chocolat.
Ah, bah oui. Patrick Mille.
Bravo. Vous mangez ce que vous voulez.
Patrick Mille est au Théâtre du Rond-Point depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 décembre. Et vous serez ensuite à Avranches les 9 et 10 mars. À Nîmes les 29, 30 et 31 mars. On est dans une année électorale et présidentielle. Est-ce que là aussi, c'est pas un hasard que vous ayez choisi cette période-là pour faire ce spectacle?
Non, c'est pas du tout un hasard, tout à fait, en fait. Parce que 21, en même temps, c'était les 40 ans de la victoire de Mitterrand en 1981. Donc c'est plus ça, si j'aurais dû choisir une date qui correspondait.
Anniversaire.
Après, c'est intéressant que les gens voient, c'est une année électorale.
Exactement.
Et ils voient l'ascension au pouvoir.
Mais voient surtout que la grandeur politique n'est pas toujours la même avec le temps.
Exactement.
Que le taux de participation et d'abstention aux élections n'était pas aussi catastrophique qu'il est aujourd'hui, parce qu'on entend les taux de participation justement.
C'est énorme. 14,
c'était dingue.
Et 81, c'est fou aussi, quoi. La participation, elle est dingue en 81.
Et vous, 81, le 10 mai 81, vous vous souvenez de cette date marquante,
d'une grande ivresse à tout point de vue de mes parents et de l'immeuble en entier dans le 19e où j'habitais à l'époque. Et c'était une grande fête, cette victoire de 81, vraiment.
Au Théâtre du Rond-Point, avec ces images, alors je souligne, et pas uniquement parce que elles sont nombreuses, mais d'abord elles sont bien choisies, elles sont habillées aussi, il y a des effets de réalisation, il y a les dates qui sont écrites d'une manière comme ça à la main pour resituer. D'ailleurs, il y a des périodes qui passent extrêmement vite aussi, il y a comme ça des... Est-ce que ce sont des trous dans la correspondance ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas voulu aller sur les années... Je crois que c'est en 80.
Mais en fait, à partir du moment où il est président, à partir du moment où il est président, il écrit beaucoup moins. D'ailleurs, elle le dit à un moment dans une des phrases d'Anne Pajot qu'on reprend, elle dit « la vie normale commence à partir du moment où vous rentrez à l'Élysée et elle suspend les lettres. » Et puis aussi, il apprend qu'il a un concert... 4 mois après rentrer, une fois qu'il est président de la République. Donc ça aussi, ça...
Puis ils se voient davantage aussi.
Et ils se voient tout le temps. Oui, ils vivent ensemble.
Donc
c'est ça.
Et donc,
en fait, c'est pour ça les lettres... Et il reprend finalement à la fin. Vous voyez, quand il est plus président, il reprend la correspondance, et notamment à Belle-Île, avec ses très belles... Les dernières lettres qui sont absolument... bouleversant.
Sur là, le plaisir de la vue, des paysages et de la
description.
Ouais.
C'est là où on voit que c'est un grand auteur, un grand écrivain. C'est sa description des paysages, des éléments très très fortes.
Et son dernier secret, vous savez, ce livre écrit par Solène de Royer qui dévoile cette étudiante dont il était amoureux aussi
à
la fin de sa vie.
Je l'ai pas lu.
Ouais.
J'avais pas envie. Moi, je suis dans l'histoire de.
Vous voulez pas trahir
Anne.
Non, c'est pas ça.
Moi, il y a peu de chances qu'il écrit à Anne Pinjot surtout.
Façon...
Non, mais on parle de la vie de l'homme, comme vous êtes très très pointu sur la vie de Mitterrand.
Oui, mais ça m'a pas intéressé. D'abord, encore une fois, je vous dis, je trouve pas ça très élégant. Anne Pinjot a attendu, le décès de Daniel Mitterrand pour sortir. Là, c'est je pense, un beaucoup littéraire. Après, je sais pas si ça a marché. Ça m'intéresse pas. Je le lirai plus tard, un jour peut-être ou pas.
C'est la confession d'une jeune femme.
Oui, d'une jeune femme. Après, voilà, c'est une histoire. Vous savez, Mitterrand, en même temps, comme disait Anne Pinjot, elle disait, c'est un chasseur séducteur.
Oui.
Il cherchait à plaire.
Il a eu de nombreuses histoires.
Le grand amour de sa vie, comme le disait l'historien que vous avez reçu tout à l'heure,
Jean Garrigue,
c'est Anne Pinjot.
Au Théâtre du Rond-Point, je le rappelle, d'autres événements dans la culture, Leïla.
On va parler du Metropolitan Museum à New York, le Met. Il vient d'annoncer la rénovation de toutes ses salles. C'est un musée colossal. Grâce à quel fonds est-ce que le musée va ainsi...
Le Qatar.
Non, mais il n'y a pas un scandale justement sur l'industrie pharmaceutique?
Non. Il y a eu une histoire avec des salles qui étaient financées, mais ça touche pas que le Met.
Par Bill Gates.
Non, là c'est une histoire, une jolie histoire.
Par une industrie pharmaceutique, mais qui a créé un médicament qui a tué des.
Tous les opiacés que les gens prennent en grosse quantité.
C'est pas financé par la brioche d'oreille, tout ce qu'ils ont vendu comme chocolat.
Ça serait super.
C'est pas ça. Quelqu'un qui a fait un énorme don.
Si.
Il y a un lien avec la France?
Ouais, ce sont des donateurs privés. Je l'accorde à Morgan, absolument. 125 millions de dollars, quand même, en termes de donations privées. C'est un couple d'Américains d'origine chinoise.
Seul qui a donné 125 millions?
Absolument.
Ah ouais. Bah oui, il y a des gens généreux, hein.
Il y a des gens riches.
J'avais oublié que j'avais 125 millions dans mon manteau.
C'est l'histoire d'Oscar Tang et d'Agnès Utsang qui Oscar Tang a fui la Chine en 1948. Il a trouvé refuge aux États-Unis. Il avait 11 ans. Il a fait fortune dans la finance ensuite. Et il a décidé. C'est pas vrai. Donc Oscar Tang, d'accord.
Okay. C'est pas nul, mais c'est une blague de boomer.
C'est ça. Voilà. Donc les nouveaux espaces vont porter le nom du couple Tang. Ça fait plus d'une décennie que le musée essaye de rénover ses galeries. Et là, c'est 125 millions de dollars. C'est une aubaine absolue. Tout ça pour vous demander,
oui,
Patrick.
Tout ça, oui. Voilà.
Est-ce que vous aimez le
Patrick, musée
votre musée préféré. Est-ce que vous avez un musée de prédilection, un endroit où vous aimez aller vous promener ou voir une seule toile, tout simplement?
Oh, le Louvre. Pour voilà, le Louvre.
Ouais. Et il y a une toile en particulier au Louvre qui vous attire à chaque fois?
Non, plutôt les statues égyptiennes, les sarcophages.
Ouais, ça, c'est votre espace.
Petit, j'adorais ça et c'est toujours un endroit qui me rappelle.
Ah, c'est magique. Ouais.
C'est extraordinaire.
Ah, ouais, totalement magique.
Autre question, quel personnage culte va incarner le comédien Nicolas Cage qui revient après quelques années? Ça faisait depuis 2011 qu'on ne l'avait pas vraiment vu sur un gros long métrage hollywoodien.
C'est un biopic?
C'est pas un biopic.
C'est un dessin animé de BD?
C'est pas un super-héros. C'est pas un personnage de BD, mais c'est un personnage qui est fascinant, fantastique.
Stéphane Bern.
Nostradamus.
Non.
Waouh.
Non. On va parler de. Ça peut être un film d'horreur aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est une figure fantastique.
Dracula,
absolument. Il va camper cette figure légendaire pour un film Renfield qui est attendu en 2022. Ça faisait très très longtemps.
Enfin, c'est dans une semaine. Hein.
Ça lui va bien.
Ouais, mais alors c'est pas pour tout de suite. Quoi. Oui, t'as raison. C'est pas pour janvier 2022. Hein. T'as raison, on est en 2022 bientôt. Au secours.
C'est fou.
Ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu sur grand écran. Lui qui est aussi le neveu de Francis Ford Coppola qui avait déjà adapté ce grand classique en 92 avec ce film. On va dire que la famille a ça dans le sang. Est-ce que vous avez un acteur américain en particulier qui vous suivez quoi qu'il arrive. C'est facile de parler de vous.
J'en ai plusieurs.
Oh, merde. Mais,
Jack Nicholson et Al Pacino que j'ai trouvé dément dans House of Gucci d'ailleurs.
Alors puisqu'on parle justement de grandes figures emblématiques de la littérature et du cinéma, les Trois Mousquetaires. Racontez-nous donc vous. Il y a 8 mois de tournage, vous dites, pour deux films.
Oui.
Le premier volet s'appellera D'Artagnan.
Oui.
Et vous jouez quel personnage?
Moi, je fais le comte de Chalais, voilà, qui fait partie du conseil du roi et qui est pas forcément dans le livre original, mais dans l'adaptation qu'ont fait Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. C'est un personnage qu'ils ont créé pour l'intrigue.
C'est tourné en comédie, c'est tourné
C'est une adaptation historique incroyable.
Parce on attend d'eux aussi. De l'humeur et de la vanne.
C'est totalement épique et avec beaucoup de souffle.
On rappelle que ce sont les auteurs du prénom.
Voilà. Et ils ont adapté les Trois Mousquetaires de Dumas en deux volets. Donc effectivement,
D'Artagnan et Milady.
Voilà, avec un casting assez dingue.
Romain Duris, Vincent Cassel et vous, il y a qui d'autre?
Il y a François Civil, il y a Pio Marmaille, ça c'est les quatre mousquetaires. Il y a Eva Green qui fait Milady. Voilà, il y a Éric Ruff qui fait le Richelieu.
Bah donc vous lui avez déjà... Discret au à la table régie.
Un petit café, Éric.
Entre deux figolus, chocolatine.
Le cardinal.
On est bien.
Je l'ai invité à l'être à Anne. Voilà.
Voilà.
Il y a Louis Garrel qui fait Louis XIII. Vicky Cripps qui fait Anne d'Autriche. C'est un très très beau casting.
Ouais, super.
C'est fou.
Et c'est Martin Broboulon qui réalise.
Et ça sortira le... Alors là, on a le temps, c'est le 5 avril 23.
Alors je crois, le premier c'est en 23.
5 avril 23. Plus renseigné que moi. 13 décembre 23.
Voilà.
On est peinard.
Pour la suite. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien entendu, déjà désolé pour toutes les phrases qui n'ont pas été finies ce matin par Patrick. Bon, alors j'ai pu discuter avec les points de suspension à la pause et ils m'ont confié que eux connaissaient la fin des phrases et que finalement, on s'en tire bien, que c'est mieux comme ça, que certaines fins n'avaient aucun sens et d'autres des fins bien, voire trop. Dégueulasse. Bien, désolé pour la grande, la belle chanson française qui ce matin a été salopée par Patrick Mill. Et tout ça à cause de Nagui. Et oui,
qu'est-ce
je rappelle
que
Nagui, cet homme, est également responsable du duo diabolique Black M. Anne Romanoff. Nagui, tu la mérites, la prison. Pas, tu la mérites, la prison. Bon, une prison people, hein, dans une cellule pour trois. Entre Jean-Luc Lahaye et Harry Habitant. Désolé pour Patrick Mill, encore, j'ai eu un SMS du patron de la Comédie Française. Eh bien, il a entendu votre appel. Malheureusement, Guillaume Gallienne, Laurent Lafitte et Denis Podalydès ont tellement salopé votre réputation qu'Éric Ruff ne peut pas donner suite à votre proposition. Il dit que ce serait une mauvaise publicité d'accueillir aux Français un clandestin brésilien toxicomane socialiste, comme vous décrivent ces gens avec qui vous ne travaillerez jamais.
Merci Patrick Mill. Jusqu'au 31 merci décembre donc au Théâtre du Rond-Point pour ces lettres à Anne signées, adaptées en tout cas par vous et Benjamin Guillard, mises en scène par Benjamin Guillard et puis ensuite en tournée en 2022, notamment à Avranches et Nîmes. La semaine prochaine, Pénélope Bagieu sera ton invitée. Leïla, avec toute la bande oui. originale, il y aura également Chantal Goya mardi, mercredi Trio, ensuite Alexandra Lamy, puis en fin de semaine Léa Seydoux et Arnaud Desplechin. C'est un très beau programme. Je vous écouterai et je vous souhaite d'ici là, pour ceux qui ont la chance d'en prendre, de bonnes vacances scolaires. Bonne journée et bon week-end.